France Culture. Un plan d'action spécial, voilà ce qui a été dévoilé aujourd'hui par le gouvernement chinois. Son but, mettre toutes les régions et districts du pays à contribution pour, et je cite là les termes officiels, pour donc soutenir la consommation de manière vigoureuse, élargir la demande domestique dans toutes les directions, améliorer la capacité à consommer en augmentant les revenus et diminuant les complications, faire de la consommation un moteur de la croissance, voilà plusieurs mois, si ce n'est davantage, que ce discours revient à perpétuité et de façon répétée dans la bouche des autorités chinoises, car c'est un fait, la croissance chinoise est bien moins dynamique qu'espérée, et le Premier ministre Li Qiang l'avait assumé le 5 mars dernier. Sur le plan intérieur, les bases d'une reprise économique durable et d'une croissance soutenue en Chine restent fragiles, et notamment en raison de cette consommation morose. Alors des mesures ont été annoncées, le gouvernement espère créer 12 millions d'emplois urbains en 2025, un gouvernement qui a également annoncé un relèvement du déficit budgétaire d'un point du PIB cette année à 4%. Mais tout cela suffira-t-il à redonner confiance aux ménages? Ces derniers ont en effet dû faire face à une série d'événements qui ont sérieusement entaché la vision qu'ils avaient bâtie de leur avenir, entre crise de l'immobilier, taux de chômage extrêmement élevé chez les jeunes générations et sentiment généralisé de déclassement. Leurs choix, y compris budgétaires, sont désormais largement contraints et leurs comportements en sont l'illustration. La fameuse classe moyenne, fer de lance d'un nouveau modèle de croissance pour le pays, tarde à voir les promesses de prospérité économique se réaliser et exprime désormais une forme d'angoisse à travers une épargne de précaution qui mécaniquement se fait au détriment de la consommation. Alors un plan de relance suffira-t-il à renouer les liens d'un contrat implicite entre la population chinoise et le gouvernement? Quelles leçons tirer des raisons qui ont conduit à une telle situation où les horizons se bouchent et les portefeuilles peinent à s'ouvrir? C'est ce que nous allons voir jusqu'à 15h dans cette émission préparée et programmée par Diane Devant, réalisé par Françoise Le Floch et mise en onde par Dalia. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Jean-Louis Roca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po. Vous avez enseigné pendant 6 ans à l'université Tsinghua à Pékin et vous êtes responsable du volet Société et Production Artistique du projet européen China Horizons, Dealing with a Resurgent China. Vous nous expliquerez peut-être en quoi consiste ce vaste projet. Également avec nous, David Bavret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous investisseur et essayiste. Vous êtes chroniqueur pour le journal L'Opinion et on vous doit un ouvrage bien Bienvenue en économie de guerre qui a paru aux éditions Novice en mai 2024, l'année dernière donc. David Bavret, on a eu un certain nombre de déclarations ces derniers temps. Le Conseil des affaires de l'État, c'est-à-dire le gouvernement central chinois, a donc, je le disais, présenté hier un plan d'action pour relancer la consommation de la population chinoise. Un plan qui a été détaillé tout au long de la journée aujourd'hui. Déjà le 5 mars, les parlementaires chinois réunis lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire avaient pu découvrir un rapport gouvernemental présenté par le Premier ministre qui visait à faire de la demande intérieure la force motrice et le point d'ancrage de la croissance chinoise. Et puis le 24 septembre dernier, la Banque centrale chinoise avait annoncé de nouvelles mesures de relance de la consommation. Le 11 novembre avait été dévoilé un plan d'allègement de la dette pour desserrer les taux autour des collectivités locales et donc créer des conditions plus favorables à une reprise de la demande intérieure. Bref, on le voit, ça fait beaucoup d'annonces. Toutes sont orientées vers un seul et même horizon, on peut le dire, celui de cette fameuse relance de la demande. De quand date cette prise de conscience et le renforcement d'un tel discours, David Bavret? Est-ce qu'on peut tout remettre à début septembre 2024 ou est-ce que ça fait bien plus longtemps que ça, au contraire que ça fait partie des préoccupations majeures du gouvernement chinois?
Alors moi, ça fait 13 ans que je vis à Hong Kong et ça fait 13 ans que chaque année j'entends le rééquilibrage de la croissance chinoise par l'accélération de la croissance de la consommation intérieure. Et c'est un peu Godot, ça fait 13 ans qu'on l'attend. Donc ce que vous avez dit, il y a peut-être un mot que je reprendrai, c'est quand vous dites que le gouvernement ce matin a annoncé un plan détaillé. Parce que justement, le problème, c'est qu'il n'y a aucun détail concret.
Les objectifs sont là, pas la façon dont les districts et les régions peuvent s'en saisir.
Voilà. Exactement. Et si on met ça dans un peu le contexte de ce qui se passe depuis 6 mois, le gouvernement chinois a annoncé ce qu'on a perçu comme le plan japonais des trois flèches du président Abe quand il a modifié la politique économique japonaise. On a eu une première flèche au mois de septembre qui a consisté essentiellement à maintenir artificiellement la bourse. On a eu une seconde flèche au mois d'octobre qui a consisté à essayer d'alléger les dettes des municipalités qui sont aujourd'hui toutes en faillite en essayant de repasser les dettes des municipalités au gouvernement central. Et on attend désespérément la troisième flèche qui était censée être pour la consommation. Alors on l'attendait pour le Nouvel An chinois, qui est fin janvier, début février. On ne l'a pas eu. Donc on attendait à ce qu'on appelle les deux assemblées qui vient d'avoir lieu. C'est la réunion annuelle économique du gouvernement. Et pour l'instant, on est un peu comme Saint Thomas. Comme on a attendu beaucoup, on dit on aimerait bien, on va voir, on ne va croire que ce qu'on voit. Et donc, les principes ne sont pas suffisants, on veut des annonces véritablement détaillées. Et pour l'instant, on reste sur notre faim.
Donc il y a une forme de décalage entre les effets d'annonce, ou en tout cas le fait que ce thème-là de la relance de la consommation apparaisse très souvent dans les discours, et puis l'absence, vous venez de le dire, David Bavrey, de fléchage vraiment très concret. Ce qui est étonnant aussi, Jean-Louis Roca, mais peut-être pas tant que ça, vous allez nous le dire, c'est que l'affichage de cette volonté fait preuve d'une certaine modestie, en tout cas d'un certain aveu d'échec aussi, si on reprend les déclarations du Premier ministre. Le 5 mars, il le dit, la demande réelle est faible, la consommation en particulier est apathique, certaines entreprises rencontrent des difficultés dans leur production et peinent à se faire payer. Est-ce qu'un tel aveu de faiblesse est rare, Jean-Louis Roca?
Alors non, parce que d'une certaine façon, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est l'échec d'une réussite, on pourrait dire. C'est-à-dire que j'irais même plus loin dans l'histoire récente de la Chine. C'est même dès les années 2006-2007 qu'on commençait à parler de changement de stratégie économique. C'est-à-dire que pourtant, on avait commencé avec une stratégie économique il n'y a pas si longtemps, hein, assez radicale à la fin des années 90, mais basée sur les investissements, sur les réformes des grandes entreprises chinoises, la liquidation du secteur public, etc., etc. Et donc sur deux éléments, l'investissement, notamment l'investissement public, évidemment, et les exportations. Mais très rapidement, on s'est dit, évidemment, parce qu'il y a des bons économistes en Chine, bien évidemment, que c'était pas possible. Au bout d'un moment, il faudrait déjà penser à la phase suivante, où ce serait, au contraire, la croissance économique qui serait... la croissance, pardon, de la consommation qui serait le fer de lance, un peu, de la croissance économique. Et d'autant plus que, avec la crise de 2008, et puis peu à peu, aujourd'hui, les incertitudes sur ce qui se passe sur le marché international, la sécurité de la Chine d'une certaine façon et la sécurité de la croissance de la Chine est basée quand même logiquement sur compter sur ses propres forces d'une certaine façon, c'est-à-dire la croissance économique est moins comptée sur les exportations qui sont plus difficiles, même si la Chine reste une grande puissance exportatrice. Donc c'est un peu d'une certaine façon l'aveu même de l'échec, hein, parce que les dirigeants chinois sont bêtes, parce que les économies chinoises sont bêtes, mais parce que c'est compliqué de passer évidemment d'une économie basée sur l'investissement et les exportations à une économie qui serait basée sur la consommation. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on transforme totalement la société et qu'on en fait une société de consommation à outrance. On pourrait dire que la société de consommation devient au centre finalement de la réalité sociale et économique du pays. Donc on a eu beaucoup de réussites dans ce cadre-là. On a l'apparition de cette classe moyenne dont on va parler longuement, je pense. Donc avec des gens qui ont des revenus élevés, qui grâce à des réformes très ambitieuse dans le domaine de l'éducation, ont pu accéder à des niveaux de diplômes extrêmement élevés, ont pu avoir un travail de qualité, donc ont pu investir, par exemple, dans l'immobilier, mais aussi ont pu consommer, voyager, pouvoir donner à leurs enfants, à leurs enfants en général, une bonne éducation. Donc c'est là on a effectivement une réussite. Là où on n'a pas eu de réussite, évidemment, sans parler de la crise actuelle de la classe moyenne, c'est de faire entrer les migrants dans cette classe moyenne. C'était évidemment l'objectif aussi, parce que ces migrants qui ont considérablement amélioré leur situation ne sont pas encore entrés véritablement dans la société de consommation. Ils sont dans une petite société de consommation, on pourrait dire, mais pour des raisons diverses que l'on verra peut-être, ils ont des difficultés, eux aussi, à accéder à une consommation massive.
Mais Jean-Louis Roca, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une forme d'échec à partir du moment où, si on reprend les propos de David Bavrey, à partir du moment où il n'y a pas eu vraiment de vraies mesures, on va dire, mises sur la table pas de choses très, très concrètes. À partir du moment où tout est flou, il est un peu normal de fait d'acter le fait que ça ne débouche sur rien.
Alors oui, alors, et puis il y a un problème fondamental aujourd'hui dans la société chinoise, c'est-à-dire que on n'est pas passé encore à une économie qui serait basée sur la haute technologie. Bien évidemment, il y a des progrès qui sont énormes, etc., etc. Mais l'objectif, c'est de remplacer l'économie précédente basée sur l'industrie, la production de produits à faible valeur ajoutée, avec du travail peu qualifié, etc., etc. Ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile en Chine parce que les revenus, justement, des migrants qui viennent travailler en ville ont augmenté. Et d'un autre côté, on a aussi des difficultés dans le domaine de la technologie. Non seulement on ne peut pas remplacer tous les emplois qui disparaissent, on pourrait dire, au bas de l'échelle, par des emplois de haute qualité. Il y a beaucoup de diplômés aujourd'hui. Vous disiez qu'il y avait l'objectif de 12 millions de nouveaux emplois. Il y aura cette année plus de 12 millions de nouveaux diplômés. Donc il faut aussi trouver de l'emploi pour ces jeunes, et c'est de plus en plus difficile. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans une situation de mue économique et sociale qui sont très, très, très compliquées, parce que on ne peut pas augmenter trop les salaires des migrants parce que on sera encore moins compétitif, on pourrait dire, et les gens qui pourraient continuer à avoir un accès large à la consommation ont aussi des difficultés parce que ils ont de plus en plus de mal à trouver un travail, et surtout un travail très bien rémunéré.
David Bavre, vous souhaitiez réagir potentiellement, je pense, à cette transition peut-être économique et sur ce remplacement potentiel de l'économie facturière.
Il faut bien que nos auditeurs comprennent, c'est que cette question de la consommation intervient à un moment très particulier dans l'évolution économique de la Chine, au sens où la Chine atteint 10 000 dollars de PNB par tête, ce que dans le jargon des économistes on appelle le piège du revenu intermédiaire, puisque c'est une phase très critique dans le développement économique d'un pays, au sens où pour aller jusqu'à 10 000 dollars de création de richesse par personne, vous faites de l'industrie, vous faites du manufacturing. Et si vous voulez aller au-delà, vous êtes obligé de développer les activités de service. Et historiquement, il y a très peu de pays qui ont réussi. Il y a des pays comme Taïwan, comme la Corée du Sud. Et vous avez un problème politique, c'est que l'industrie, le manufacturing est très dictatorial dans son organisation. Vous travaillez dans une usine, je vous donne des ordres, vous obéissez. Le service, vous apprenez au contraire, vous êtes confronté au libre arbitre du client. Dans un café, il va demander le café blanc avec du sucre. Et donc, vous développez le libre arbitre qui, à un moment, passe à la sphère politique. Et ce qu'on a vu dans les années 1990, c'est que quand Taïwan et la Corée du Sud ont franchi ces 10 000 dollars de PNB par tête, ils sont devenus des démocraties. Et le problème qu'on a eu en Chine, c'est que cette équation s'est posée au moment du Covid. Et au moment du Covid, tous les services, par définition, sont devenus distanciels et donc digitaux. Et la crainte du gouvernement, ça a été de se retrouver avec les GAFA américaines, où, par définition, ces services digitaux étaient monopolistiques dans la nature même du gagnant prend tout, et que donc, c'est le match du Kremlin, si vous l'avez lu, aux États-Unis, la plutocratie, l'argent contrôle la politique, insupportable pour le parti, et en Chine comme en Russie, c'est la politique qui doit contrôler l'argent. Et voilà pourquoi, la raison pour laquelle il n'y a pas de mesures détaillées par le gouvernement, personnellement je ne suis pas surpris, parce que pour moi c'est un choix politique. Et le choix politique, on y reviendra peut-être, mais c'est passer de ce que j'appelle l'économie de paix à l'économie de guerre. C'est-à-dire que l'économie de paix, vous êtes tiré par le consommateur et la demande. Et c'est pas le chemin qui est suivi par la Chine. La Chine suit une économie de guerre où l'économie est tirée par l'offre. Et plus particulièrement les goulots d'étranglement à l'offre, qui aujourd'hui, le premier est la haute technologie que vous avez mentionnée, où il y a ce combat entre les États-Unis et la Chine. Donc, je suis très long pour vous dire que ce choix, pour moi, ce n'est pas un échec, le fait qu'il n'y ait pas de croissance de la consommation, c'est un choix délibéré politique du gouvernement, qui dit la croissance en économie de guerre, ce qui compte, c'est la dépendance, ça n'est plus la croissance du PNB, et donc ce que je veux, c'est une Chine autosuffisante dans sa technologie, dans sa production, et non pas, comme en Occident, un PNB qui est tiré non pas par 40%, mais par 70% de la consommation et qui est dépendant du reste du monde.
Mais dans ce cas-là, Jean-Louis Roca, une petite contradiction pointe son nez. On est forcé de la souligner. C'est que pourquoi tenir ce discours-là autour de la relance de la demande si, comme nous le dit David Bavré, c'est, après tout, le choix a déjà été fait et ce n'est pas le choix, justement, de cette politique de la demande.
Alors, le rapport entre développement économique et politique est extrêmement complexe. Hein. On peut le réduire, on ne peut pas le réduire à, justement, à cette vieille antienne en disant, voilà, il y a de la croissance économique, tout d'un coup, il y a la démocratie. Quand on reprend les deux pays dont on vient de parler, Taïwan et par exemple la Corée du Sud, on voit que les facteurs sont essentiellement politiques. C'est-à-dire, faut pas oublier que Taïwan, la grande question, c'est quand même le grand voisin, on pourrait dire. Et c'est ça qui a, d'après les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste de Taïwan, mais d'après les spécialistes de Taïwan, qui ont obligé d'une certaine façon les autorités taïwanaises à démocratiser. De la même façon, le conflit avec la Corée du Nord, le lien avec les États-Unis, on conduit à cette démocratisation. Une démocratisation d'ailleurs hein, qui est extrêmement fragile, on l'a bien vu dans la Corée du Sud. En ce qui concerne la Chine, je crois que je crois pas que fondamentalement les autorités portent la consommation. Au contraire, ils sont contents que l'on consomme. Il y a aujourd'hui une société de consommation. On incite les gens à consommer. Alors on y reviendra aujourd'hui puisque justement une partie de la population aujourd'hui disent on ne veut pas consommer. Donc on voit bien que le lien entre consommation et politique est quand même un petit peu compliqué. Donc au contraire, on ne veut pas consommer. Et les autorités, au contraire, essayent de convaincre la jeunesse que la vie, c'est la consommation. Et là, on touche finalement à un petit peu, d'une certaine façon, l'idéal du capitalisme éternel. C'est-à-dire, il faut avoir des gens qui consomment pour pouvoir continuer à produire, que ça soit des services d'ailleurs, ou que ça soit de la haute technologie, ou même des produits de base. Donc c'est une situation qui est... Enfin, si on veut faire le lien entre l'économie et la politique, c'est extrêmement compliqué.
En tout cas, on le comprend, la consommation est un fer de lance, alors que ce soit par un effet de discours et d'affichage, ou que ce soit finalement pour des raisons très concrètes, et puis des raisons aussi d'avenir. Vous venez d'évoquer la jeunesse, et elle va effectivement beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Mais justement, on le disait, c'est la consommation qui flanche aujourd'hui, c'est la consommation qui pose problème.
J'aime acheter des gadgets, des bracelets ou des colliers. J'achète la plupart de mes articles en ligne, sans rien planifier à l'avance. Je commande au fur et à mesure que je navigue sur les magasins en ligne.
Je dépense beaucoup pour voyager. J'achète aussi de la nourriture et des vêtements de qualité. Comme je viens de commencer à travailler, j'améliore un peu mon mode de consommation.
Les activités de loisirs sont celles dans lesquelles je dépense le plus. J'adore dépenser pour la nourriture et les boissons, mais j'utilise beaucoup de coupons de réduction. Il vaut mieux économiser quand on le peut.
Mes amis et moi, on aimait acheter des sacs de luxe, on se réunissait pour se montrer nos achats, on adorait ça. Maintenant, ce que nous préférons, c'est aller faire du sport, voyager. Notre amour du luxe a disparu.
La situation de l'emploi est mauvaise, il y a des licenciements dans la classe moyenne et les gens ne dépensent plus autant qu'avant pour acheter des produits de luxe. Même les riches sont touchés. Nous avons moins de clients qui sont capables de dépenser entre 13 000 et 40 000 euros en une fois.
Le pouvoir d'achat de chacun a baissé, probablement parce que l'économie n'est pas très bonne depuis 2 ans. Nous recherchons désormais des produits simples et nous ne cherchons plus de produits de luxe comme auparavant. Moi, je cherche plutôt des prix inférieurs à 250 euros.
Des dépenses qui sont donc revues à la baisse. C'est ce qu'on entend dans ces témoignages récoltés en mars 2024 pour la China Global Television Network et en mars 2025 pour France Info. Très concrètement, lorsqu'on dit que la consommation baisse, ce sont essentiellement les prix de l'alimentation qui ont enregistré une baisse conséquente de 3,3% entre février 2023 et février 2024, ainsi que les prix des marchandises en sortie d'usine qui ont baissé pour le 29e mois consécutif en février, soit une chute de 2,2% sur un an. Très concrètement, David Bavré, quand la population consomme moins et que les prix baissent, quel secteur est concerné? Est-ce que si le gouvernement chinois s'inquiète de cette baisse de la consommation, c'est aussi parce qu'il s'inquiète pour des pans entiers de son industrie et donc de son économie?
Alors c'est toute la consommation. Le problème qu'on a, c'est que les statistiques officielles qui vous disent que le PNB a cru de 5% en 2024, nous on pense que ce PNB était sans doute stable, voire négatif. La consommation, on sait que la mairie de Shanghai nous a dit qu'elle était en baisse de moins 3%. en 2024. On sait, à fin septembre, on sait que les revenus fiscaux du gouvernement étaient en baisse de 2%. On regarde le marché des cosmétiques, qui est un très bon indicateur, qui était un marché en baisse d'entre -5 et -10% en fonction des sous-catégories que vous regardez. Donc, en réalité, la consommation s'est véritablement effondrée en Chine en 2024. Alors, pourquoi? La grande surprise de l'année, ça a été l'éclatement de la bulle immobilière, sur laquelle il faut quand même qu'on passe quelques minutes pour bien comprendre le caractère extrêmement atypique de cette crise. D'abord par sa magnitude, puisqu'on pense qu'il y a 50 millions d'appartements vides et 30 millions d'appartements inachevés, qui font que, sur le plan économique, cette crise va avoir un coût de l'ordre de 20% du PNB, ce qui est deux fois plus élevé, par exemple, que la crise américaine de 2008 des subprimes, dont vous, sans doute, vous vous rappelez. Et ça, c'est dû à un phénomène très culturel. C'est que nous, on achète un appartement à nos enfants quand ils quittent le foyer familial, quand ils ont, 25-30 ans. Les Chinois achetaient l'appartement à la naissance, puisque l'inflation immobilière était supérieure à l'inflation des salaires. Donc, vous ne pouviez marier votre fils, que s'il avait un appartement, donc vous l'achetiez dès la naissance. Et l'appartement restait vide. Le deuxième élément atypique de cette crise immobilière, c'est que quand elle arrive en Occident, nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons déjà de vendre l'immobilier à des investisseurs étrangers, par exemple les Japonais et les Allemands à chaque fois. Nous essayons de les refiler aux banques, donc Lehman Brothers aux États-Unis, et enfin le gouvernement en prend une partie à sa charge. Et là, le caractère inédit en Chine, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs étrangers, que le gouvernement central refuse de payer, que les municipalités sont en faillite et refusent de payer, et que les banques et les assureurs sont tous étatiques. Et que donc les seuls qui vont payer sont les foyers chinois. Ce qui n'est jamais arrivé. Pour mettre encore une fois les choses en perspective pour nos auditeurs, comme il n'y a pas d'infrastructure sociale, pas de retraite, pas de sécurité sociale, 70% de l'épargne a été investi dans l'immobilier. Donc concrètement, si cet immobilier, là où je vis à Hong Kong, l'immobilier commercial est en baisse de 40%, et on pense qu'il va se stabiliser l'an prochain à -60%. Donc si vous avez mis 70% de votre épargne dans l'immobilier, qui va baisser? Vous avez perdu à peu près un tiers de votre richesse. Et vous me demandez d'accélérer ma consommation à un moment où en plus mes salaires baissent. Vous voyez que ça ne peut pas marcher.
On va faire un large parallèle et il faut peut-être revenir en détail effectivement sur cette crise de l'immobilier qui est aussi un foyer, on va dire, ou un point de départ aussi de la situation dans laquelle on se trouve. Jean-Louis Roca, ce qu'on comprend grâce à ce qui vient d'être dit, c'est que finalement les consommateurs, les ménages chinois ont une bien moindre propension à consommer parce que leur épargne est passée de fait dans cet immobilier qui a connu un très large mouvement de crise. Est-ce que pour autant on peut expliquer cette concentration, on va dire, ou en tout cas cette accumulation patrimoniale? Pourquoi finalement, face à un certain enrichissement des ménages chinois, pourquoi cet argent-là a été justement mobilisé pour investir dans l'immobilier? Pourquoi finalement le patrimoine est devenu une source effectivement d'investissement pour les ménages? Et les ménages seulement, les ménages qui se prennent de fait cette crise de plein fouet.
Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut revenir à la fin des années 90. Je vais être, excusez-moi, un tout petit peu long, mais je pense que c'est très important. C'est-à-dire, il faut s'imaginer qu'à la fin des années 90, en Chine, il n'y avait pas de propriétaire. Ni d'appartements, ni de voitures, ni de pratiquement rien, si ce n'est éventuellement quelques meubles, etc. En moins de 10 ans, ce qui s'est passé en Europe, on pourrait dire en plus de 100 ans, ou en France, mettons, en plus de 100 ans, c'est-à-dire l'apparition d'une société de consommation. Société de consommation, en France, ça a commencé avec les grands magasins, tout doucement, et puis il y a eu la Trente Glorieuses pour finir, etc. Mais ça s'est étalé longtemps. Ça s'est fait en 10 ans. C'est-à-dire que brutalement, les gens se sont retrouvés avec des revenus qui sont considérables, voire même tout simplement, ils sont devenus propriétaires spontanément parce que les unités de travail publiques, quand elles ont été liquidées, elles ont donné l'appartement qui était occupé par les ouvriers aux ouvriers. Donc ils se sont retrouvés comme ça par miracle, d'une certaine façon, propriétaires d'appartements. Donc il y a eu une espèce de vague très 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 rapide de transformation radicale de la façon dont on voit les choses. L'invention en une dizaine d'années, d'une société de consommateurs. Donc, ces gens, où vont-ils mettre l'argent qu'ils gagnent? Ils vont mettre l'argent dans le seul secteur où ils peuvent gagner de l'argent, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire avec le développement de l'immobilier qui s'est fait aussi il faut le dire, positivement pour l'économie chinoise. C'est-à-dire, ça a été un secteur pendant très longtemps qui a tiré l'économie chinoise. C'était très important. Et notamment, on parle aujourd'hui des difficultés des gouvernements locaux. Mais les gouvernements locaux ont fonctionné, ont investi dans l'industrie, dans les infrastructures aussi, par rapport à cet argent, puisque c'était eux qui vendaient, entre guillemets, les droits d'occupation temporaire, en général 70 ans, pour valoriser les terrains en question. Donc, tout le monde s'est enrichi, l'État s'est enrichi, d'une certaine façon, les gens se sont enrichis d'une certaine façon aussi, ils se sont trouvés rapidement avec une augmentation continuelle du prix de l'immobilier dans une situation, on pourrait dire, de rentier. Mais ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire que, où mettre son argent, la bourse, c'est comme ça, c'est très compliqué, on perd de l'argent plutôt qu'on gagne. C'est le seul secteur où les gens, qui en plus ne connaissaient rien à rien, la finance, etc., pouvaient mettre effectivement l'argent. Donc ça s'est fait logiquement de cette façon-là. En plus, du point de vue culturel, on pourrait dire, l'achat de l'appartement est apparu rapidement comme le symbole de l'entrée dans la classe moyenne. On rentrait dans la classe moyenne à partir du moment où on avait un diplôme à l'université, où on avait un appartement, et puis bientôt une voiture. Personne ne savait conduire non plus jusqu'à la fin des années 90 en Chine. Personne. Aujourd'hui, je dirais pas tout le monde, mais enfin, quand même, beaucoup de Chinois, notamment dans les villes, quand même, savent conduire. Donc, on a une transformation totalement des gens qui sont retrouvés, effectivement, relativement riches, mais en même temps, complètement contraints par une situation où il fallait absolument économiser pour acheter un appartement, il fallait emprunter, même graduellement, on emprunte pour acheter des appartements, et où aussi, pour rester dans ce statut de classe moyenne, on doit, par exemple, payer très cher les écoles pour l'enfant en question, pour qu'il réussisse, pour qu'il y ait une reproduction de la classe moyenne. Il y a des systèmes de sécurité sociale et de protection santé et de pension, mais qui souvent sont perçus comme insuffisants parce que il y a aussi une explosion du prix, par exemple, des soins de santé. Donc il faut aussi abonder sur ce plan-là. Il faut abonder dans le domaine de l'éducation tout et tout. Donc, si vous voulez, tout a explosé à la mesure aussi de l'explosion du pouvoir d'achat des Chinois.
Alors, vous l'avez dit, il y a une véritable explosion effectivement de ce pouvoir d'achat, une explosion qui a été mise en scène, on pourrait le dire ainsi, dans le roman Brothers de Yu Hua qui a été publié en 2008.
Deux mois passèrent et les deux voitures commandées par Li Guangtu arrivèrent. Une Mercedes noire et une BMW blanche. Pourquoi en avait-il acheté deux d'un coup ? Li Guangtu proclama qu'il voulait se fondre dans la nature. Il se déplacerait le jour dans sa BMW blanche et la nuit dans sa Mercedes noire. Ce furent les premières voitures haut de gamme à faire leur apparition dans notre bourg des Liu. Quand la Mercedes noire et la BMW blanche se garèrent devant la compagnie de Li Guangtu, les masses firent cercle autour d'elle en s'extasiant. Les gens soutenaient Mordicus qu'il n'avait jamais rien vu de plus noir que cette Mercedes, ni de plus blanc que cette BMW. La Mercedes était plus noire que les noirs d'Afrique et la BMW plus blanche que les blancs d'Europe. La Mercedes était plus noire que le charbon et la BMW plus blanche que la neige. La Mercedes était plus noire que l'encre noire qu'utilisent les écoliers et la BMW plus blanche que le papier blanc qu'utilisent les écoliers. En résumé, la Mercedes était plus noire que la nuit et la BMW plus blanche que la clarté du jour. La BMW, plus blanche que tout, fit deux tours pendant la journée dans notre bourg des Liu et la Mercedes, plus noire que tout, fit deux tours pendant la nuit. Et ces quatre tours se firent sans Li Guangtu, avec le chauffeur tout seul au volant. Le chauffeur de la Santana avait été promis chauffeur de la Mercedes et chauffeur de la BMW. Quand il sortait une des deux voitures, il avançait une lippe méprisante et les gens du bourg disaient de lui que si on le regardait sans faire attention, on avait l'impression qu'il avait des hémorroïdes sur les lèvres.
Jean-Louis Roca, vous avez évoqué un enrichissement assez global dans les années 90. On est bien d'accord et je voudrais que ce point soit fait pour comprendre aussi la suite des événements et puis la façon dont on, enfin les raisons pour lesquelles on est arrivé à la situation actuelle et la façon dont se configure la demande chinoise. On est bien d'accord que cet enrichissement n'est pas un enrichissement qui est, on va dire, porté, qui on va dire est planifié par le gouvernement chinois à l'endroit de certaines catégories de population. C'est un mouvement assez naturel qui ne fait pas l'objet d'une politique spécifique.
Disons que si, très rapidement, au début des années 2000, on dit, après avoir quelques années de doute sur le rôle de la classe moyenne, parce qu'on avait un peu peur, reprenant les analyses, expliquant que la classe moyenne allait imposer la démocratie, remettre en cause le parti, etc. Rapidement, on s'est plutôt orienté, pas simplement d'ailleurs les autorités chinoises, mais aussi globalement les autorités mondiales, sur le fait que cette classe moyenne est une classe très positive, puisqu'elle va tirer la croissance de la Chine, mais aussi la croissance mondiale. Ce qui, d'une certaine façon, est effectivement vrai. Le secteur de la voiture, par exemple, est un exemple tout à fait éclairant. Donc, il y a une véritable volonté, une véritable volonté de faire de la classe moyenne une fer de lance de la consommation. D'ailleurs, on n'emploie pas classe moyenne dans les hautes sphères, mais on parle plutôt de groupe à revenu moyen. Pour bien montrer que ce qui est important, c'est d'avoir un revenu moyen. C'est-à-dire que c'est cet élément-là, et non pas éventuellement des changements dans le domaine politique ou dans le domaine social, qui est l'élément fondamental, on pourrait dire, et positif de cette classe moyenne. Alors, à côté de cette classe moyenne, il faut dire aussi que les migrants qui viennent de la campagne, qui vont travailler, ne sont pas entrés complètement, comme je disais tout à l'heure, dans la classe moyenne, mais tout de même ont connu une explosion, eux aussi, de là. Imaginez la situation des classes dans les campagnes chinoises dans les années 80 et 90. C'était pas tout rose. Donc, beaucoup de gens sont venus en ville se faire exploiter, mais en même temps, d'une certaine façon, accéder à une petite société de consommation. Par exemple, les migrants, ils ont tous un téléphone, ils ont parfois une moto. Quand ils rentrent même chez eux, ils achètent parfois une petite voiture, etc., etc. Bon, on a des situations qui sont évidemment extrêmement variées en fonction de la situation. Il y a aussi des gens parmi ces migrants qui ont réussi malgré tout, même si c'est pas très facile parce qu'ils n'ont pas accès aux services de l'éducation quand ils habitent dans les grandes villes. Ils doivent retourner chez eux s'ils veulent passer les examens pour entrer à l'université. Malgré tout, un certain nombre réussissent à entrer à l'université. Dans des petites universités, mais malgré tout, peuvent avoir, connaître une amélioration assez sensible de leur situation. Donc, c'est une explosion globale de la consommation, mais limitée pour les migrants par des revenus qui augmentent mais n'explosent pas, on pourrait dire, et la classe moyenne par des contraintes, encore une fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé l'appartement, l'éducation pour les petits, les frais de santé pour l'enfant, mais aussi pour les parents qui commencent à devenir vieux, plus éventuellement, effectivement, de l'épargne, parce que si on est malade, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que si l'enfant va aux États-Unis faire des études, il va falloir donner encore plus d'argent, aussi quand on sera à la retraite, on n'est pas sûr d'avoir une pension, on cotise, mais tout ça est un peu, disons, dans le flou. Pour toutes ces raisons, effectivement, la part qui est laissée à la consommation, je dirais, classique, est effectivement limitée. Et donc, ce n'est pas une nouveauté. Et le problème, c'est que, pour l'instant, le gouvernement chinois, et ça serait intéressant d'avoir des détails précisément là-dessus, on est tous d'accord pour dire que ce qu'il devrait faire, effectivement, pour libérer un peu la consommation en Chine, ça serait par exemple de mettre en place un véritable système de garantie dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, avec des bourses plus importantes, mais aussi, effectivement, faire en sorte d'abaisser, par exemple, le niveau d'accès à l'achat d'un appartement, de l'immobilier, parce que là aussi, les nouvelles générations ne peuvent pas le faire. Mais il y a une contradiction ici, si vous baissez le coût de l'immobilier, vous ruinez la classe moyenne. Donc, une espèce de, on se mord la queue d'une certaine façon dans cette situation qui est une situation effectivement très complexe.
Une situation complexe, mais qui nous montre bien quelque chose, David Bavrai, c'est que certes, finalement, il y a une forme de croissance qui a été poussée par cet enrichissement global, certes en faveur, on va dire, des classes moyennes, mais on voit bien et on l'entend à travers les propos de Jean-Louis Roca qu'il n'y a pas vraiment de service public ou en tout cas pas vraiment d'aide à la personne ou en tout cas de modèle social qui a été développé par ailleurs. Et c'est cela qui pèse, qui vient toujours contraindre les budgets des ménages chinois. Ça aussi, ça explique une certaine réticence, on va dire, à dépenser. Là encore, on comprend avec Jean-Louis Roca que c'était le cas dès le départ. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes-là, notamment liés à la garde d'enfants, mais aussi aux parents plus âgés, etc., se sont accentués ?
Alors, tout le but, c'est que, pardon, toute la question, c'est que cette croissance, elle a été inégalitaire. Vous mentionnez Brother. Alors, il faut quand même être honnête avec nos auditeurs. C'est le roman, enfin, moi, c'est sans doute le roman le plus fantastique que j'ai lu sur la Chine au cours des 12 dernières années. Et faites très attention, parce que si vous commencez de mémoire, il y a 500 ou 600 pages. Et tout votre week-end va y passer parce que vous commencez à lire et vous ne pouvez pas vous arrêter. Ce qu'il faut mentionner, c'est que cette croissance, elle a été très inégalitaire. Vous parlez aux gens, par exemple, parlez aux gens du luxe. Il y a seulement 1 million de Chinois, de très très riches, ultra riches, comme ils disent, qui font 50% de leur industrie. Il y a seulement 7-8 millions de Chinois qui font 80% de leur industrie. Et leur industrie touche à peu près 15 millions de Chinois sur 1,4 milliard de Chinois. On estime, si vous parlez à nos géants de la cosmétique, L'Oréal pense que leur marché adressable, dans notre jargon, donc le nombre de gens à qui ils vendent, est de l'ordre de 100 millions. Donc il y a 100 millions de Chinois qui ont à peu près 2 500-3 000 dollars de revenus mensuels, comme chez nous. Et puis au-delà, votre pyramide, elle descend très rapidement à des revenus dans les villes de seulement 1 000 dollars par mois. Donc quand on parle de classe moyenne, on est à 1 000 dollars par mois, alors que chez nous, on est à 2 ou 3 000. Et puis ensuite, vous avez 600 millions de gens qui sont encore dans les campagnes et qui sont à moins de 400 dollars par mois. Donc, il faut être quand même très granulaire dans l'analyse des différentes strates de la société chinoise, parce que cette croissance a été extrêmement inégalitaire.
Mais Jean-Louis Rocaille, et j'en reviens là à notre problème actuel, cette fameuse baisse de la consommation, cette baisse de la demande, on le disait, ça se traduit notamment par une baisse des prix de consommation courante, on va dire. Est-ce qu'il y a un risque, et notamment parce qu'il y a eu comme conséquence directe une forme de guerre des prix, il y a eu une forme de course au discount pour proposer de fait des prix toujours plus bas à des ménages qui voulaient toujours dépenser moins, c'est assez mécanique, on va dire. Est-ce qu'il y a un risque pour que ce soit ces petits commerçants, ces gérants de magasins de vente de biens de consommation courante qui se prennent à nouveau la crise de plein fouet et renforcent les inégalités dont on vient de parler?
Alors oui, c'est-à-dire que il faut dire là que le Covid a fait aussi beaucoup de mal. Hein. Faut revenir sur cet élément-là quand même à l'économie chinoise d'une certaine façon et surtout au niveau de vie des gens. Il y a eu effectivement pendant ces années-là et ça a duré longtemps hein, en Chine le Covid. Enfin, je parle pas de la maladie, mais qui va durer finalement plus longtemps qu'ailleurs. Mais le confinement et toutes ces affaires-là, c'est-à-dire pendant un certain nombre d'années, quand même, effectivement, toute l'économie privée a été complètement remise en cause. Et encore aujourd'hui, dans le discours de Li Qiang, il y a l'idée qu'il faut développer de nouveau les secteurs privés. Et quand il parle du secteur privé, c'est pas les grosses entreprises privées, hein, qui elles ont les capacités en général, de pouvoir résister. C'est la multitude de petits commerçants, de petits hommes d'affaires, etc., qui ont rencontré énormément des difficultés. D'autant plus que la plupart de ces gens font partie d'une catégorie particulière de la classe moyenne, qui sont en fait les gens qui souvent ne sont pas trop diplômés, sont des gens qui ont mobilisé de l'épargne locale ou qui ont des relations politiques avec des gouvernements locaux, qui ont pu créer une petite entreprise, ou même une entreprise un petit peu plus importante que ça, et qui rencontrent effectivement des difficultés dès que, comme lors du Covid, la conjoncture est quand même extrêmement difficile, ou même encore aujourd'hui, effectivement, la consommation est extrêmement... Aujourd'hui, les marges, effectivement, de ces gens-là sont extrêmement faibles. Ils vendent pour quelques centimes, on pourrait dire, chaque produit. Vraiment, les marges sont très faibles. Donc, effectivement, c'est d'autant plus embêtant que on sait que avant justement le Covid, 70% à peu près de la création d'entreprises avait lieu dans le secteur privé, enfin non public, parce que c'est compliqué en Chine, parce que vous avez le secteur public proprement dit, vous avez ce qu'on appelle les entreprises collectives, qui sont en fait des entreprises publiques, mais créés par des organismes publics, mais qui n'ont pas le statut d'une entreprise d'État, etc., etc. Donc c'est un petit peu complexe. Mais enfin, disons, si on écarte le secteur proprement étatique, il y a 70% quand même de création d'emplois qui étaient dans ce secteur-là. Et donc aussi dans toutes ces petites entreprises-là. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un élément. Quand on discute avec les gens en Chine, tous disent, moi je connais machin, qui avait des entreprises qui se débrouillaient bien et qui ont eu des difficultés et qui ont été obligées de fermer. Donc ça aussi, évidemment, c'est un gros problème actuellement.
David Beverly,
l'illustration très concrète de vos propos, c'est le restaurant de quartier. C'est-à-dire qu'il faut voir que la plupart des Chinois dans les villes vivent dans 50 mètres carrés. Vous n'invitez pas vos amis chez vous. vous retrouvez vos amis au restaurant de quartier. Et durant le Covid, il n'y a eu, contrairement à la France, aucun soutien aux restaurants qui étaient fermés et qui ont donc tous fait faillite. Et on va peut-être y revenir, mais parmi le mécontentement de la population dans la période post-Covid, c'est le fait que vous n'avez plus le restaurant chez lequel vous vous retrouviez avec vos amis. Donc, vous n'avez plus de lieu social où retrouver vos amis. Donc, c'est un exemple typique de ce que vous mentionniez. Et ça, ça fait partie du fait que la vie sociale post-Covid ne sera plus la même que celle pré-Covid.
Il y a aussi le développement du e-commerce aussi, qui a aussi fait beaucoup de mal, on pourrait dire, sur la consommation en Chine, je dirais la consommation conviviale et l'ambiance dans les villes. Parce qu'aujourd'hui, dans les rues de beaucoup de villes en Chine, il y a plus personne. Moi, quand j'étais à Pékin en octobre dernier, on me disait, mais c'est triste parce que les gens ne sortent plus, parce que les gens commandent aussi beaucoup. Donc on voit effectivement de la route beaucoup de mobilette électrique, etc. Mais si vous voulez, il y a une espèce d'enfermement qui est lié sans doute effectivement au confinement, mais au fait que la consommation devient de plus en plus virtuelle, on pourrait dire. Enfin, évidemment, ils consomment des choses réelles, mais dans le sens où l'e-commerce, le fait que effectivement beaucoup de restaurants ont fermé, le fait que l'on commande, etc., font qu'il y a une espèce d'ambiance où finalement tout le monde consomme, mais personne n'est vraiment satisfait de son consommation, parce que ça devient un espèce de truc un peu sans plaisir d'une certaine façon, et c'est pas sans rapport sans doute avec ce que l'on dira plus tard sur la remise en cause justement de cette consommation dans aujourd'hui la société chinoise.
Et on va y venir, mais c'est intéressant que vous souleviez cette concurrence finalement, et puis la façon dont ce e-commerce reconfigure aussi les relations sociales, parce que leur émergence et puis leur renforcement aussi économique n'est pas uniquement le fruit du hasard. Le premier ministre Li Qiang en 2020 justement affirmait son soutien à ces grandes plateformes de commerce en ligne.
Je suis tout à fait favorable au e-commerce, car cela stimule l'emploi et la consommation de notre pays. Les gens sont très enthousiastes quand il s'agit d'acheter en ligne. Le e-commerce a le vent en poupe. Je pense qu'il faut profiter des opportunités que nous offre Internet. Cela nous permettra de soutenir l'envolée de l'économie chinoise.
David Baveret, aujourd'hui, ce sont clairement ces grandes plateformes de commerce en ligne qui font une concurrence directe aux petits commerçants. Et on l'entendait à l'instant, des plateformes qui sont érigées en champions aussi de l'économie chinoise. Dans quelle mesure ça témoigne aussi d'une absence de considération pour une politique de la demande, on va dire, de la part du gouvernement chinois, et que finalement, on préfère favoriser l'émergence de ce genre d'acteurs plutôt que de penser aux conséquences pour un tissu de plus petites entreprises et de fait qui appartiennent parfois à la classe moyenne?
Ben, si Jack Ma était là à ma place, il vous dirait sans doute que les propos du Premier ministre sont pas vraiment suivis des faits, puisque et c'est exactement ce que je vous mentionnais à un point précédemment, c'est que cette économie digitale, par nature, elle est oligopolistique, voire monopolistique. Donc quand Alibaba a pris 50% de part de marché de l'e-commerce, naturellement le gouvernement chinois dit que ce n'était plus socialement acceptable, puisque ce que vous mentionnez précédemment, tous les petits commerces souffraient. Donc ça fait partie des contradictions du gouvernement chinois. Il faut d'une part créer un pouvoir d'achat artificiel par la déflation. Donc je suis très heureux qu'il y ait une guerre des prix sur tous les produits que la population va acheter. Mais en même temps, le problème, c'est que ça vient de quelqu'un qui crée un monopole et qui donc va devenir potentiellement un rival politique au parti. Donc vous voyez, c'est cet équilibre. Comme toujours, le gouvernement chinois est sous la contrainte de forces contradictoires.
Jean-Louis Roca.
Oui, faut noter aussi que quand Li Qiang parle des emplois créés par l'e-commerce, faut quand même préciser que ce sont des emplois de merde. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais ce sont des un petit peu comme à Paris aussi sur ce plan-là, des gens qui vivent dans des conditions et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Sauf que ce qui est intéressant en Chine, c'est qu'il y a une telle crise de l'emploi parmi les diplômés, par exemple, d'universités. Je parle des universités de seconde catégorie, troisième catégorie. catégories, on retrouve aujourd'hui comme livreurs des gens qui sont diplômés de l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne trouve presque plus à Pékin de jeunes migrants qui font ce genre de travail.
Ce sont des
migrants
diplômés.
Souvent sont partis ailleurs ou font du travail encore moins rémunéré, on pourrait dire. Donc, tout ce e-commerce a conduit aussi à une contradiction, c'est-à-dire qu'on crée des emplois, mais des emplois qui sont des emplois mal payés, qui sont des emplois mal protégés, qui sont des emplois dangereux, qui sont des emplois pas qualifiés, et donc qui contribuent d'une certaine façon à la baisse de la consommation aussi, parce que c'est aussi le chat et la souris le chat qui se mord la queue dans ce cas-là, puisque ça contribue effectivement à une réduction de la consommation.
Alors, c'est pour ça qu'on pense que le véritable chômage des jeunes n'est pas de 20%, tel que le dit le gouvernement, mais c'est proche de 50%, parce que vos étudiants de Tsinghua sont obligés d'accepter des jobs à $700 par mois, alors qu'ils ont fait... Enfin, Tsinghua, c'est l'équivalent de Polytechnique. Vous voyez comme un polytechnicien chez nous serait heureux d'accepter un premier job à $700 par mois.
Alors, peut-être pas Tsinghua.
Ils ont eu le bonheur de vous avoir comme professeur, donc ils peuvent faire mieux, mais...
Plutôt, des gens qui viennent d'universités, parce qu'il y a énormément d'universités en Chine, donc plutôt des universités, disons, de seconde ou de troisième catégorie. C'est les gens de Tsinghua, par exemple, réussissent à avoir un travail correct. Le problème, c'est de continuer de monter pour eux, c'est-à-dire, on y reviendra, sur la question de la compétition et du goulot d'étranglement, disons, sur le marché du travail, y compris le marché du travail le plus qualifié en Chine.
Alors justement, on va voir ce qu'il advient de cette nouvelle génération, de cette jeune génération, parfois diplômée, on vient de l'évoquer, de comprendre quels sont les horizons aussi qui s'offrent à elle dans ce contexte très particulier qu'on vient d'évoquer depuis le début de cette émission. On en parle dans quelques instants. Nanjing Road, du duo chino-américain The Shanghai Restoration Project. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Nous nous demandons aujourd'hui à quelle stratégie correspond le comportement des consommateurs chinois et comment ces derniers pourraient ou non représenter une façon de renouer avec une croissance plus forte, plus dynamique, selon les vœux des autorités gouvernementales chinoises. Et nous sommes toujours en compagnie de l'investisseur David Bavré et du sociologue Jean-Louis Roca. Alors on s'est quitté juste avant cet intermède musical sur l'idée de ces jeunes diplômés qui parfois, pour accéder au marché du travail, sont obligés d'accepter des postes qui ne correspondent pas à leur niveau de diplôme. On se doute, Jean-Louis Roca, que cela peut provoquer une sorte de frustration, alors qu'elle soit très budgétaire, on va dire, dans la consommation, puisque qui dit poste inférieur au niveau de diplôme dit forcément rémunération moindre, mais aussi une frustration plus ancrée, plus globale aussi. Là encore, Jean-Louis Roca, on peut parler d'une forme de rupture de contrat avec cet horizon de la prospérité qui avait été mis sur la table par le gouvernement chinois.
Alors, avant le confinement, on avait déjà quelques éléments qui montraient que les choses changeaient sur le plan, je dirais, culturel, c'est-à-dire la façon dont les gens concevaient la vie, la société, etc. en Chine. Il y avait par exemple une angoisse très forte parmi la classe moyenne, qui est connu d'ailleurs ailleurs, dans d'autres situations. La classe moyenne a peur du déclassement, etc., etc. Donc il y a une espèce d'angoisse fondamentale, existentielle par rapport à ça. Et puis, dans le cas plus particulier de la Chine, on l'a vu, l'endettement, les contraintes qui pèsent en forme de disons, ironique, La classe moyenne disait qu'elle était esclave de la consommation, esclave de l'immobilier, esclave de l'éducation. Donc, reprenant effectivement toutes ces contraintes pour rester à un certain niveau, par les activités culturelles aussi. C'est-à-dire, il faut faire du sport, il faut être mince, il faut voyager, il faut aller dans les bons restaurants, etc., etc. Et donc, toute cette angoisse existait déjà avec la peur de lendemain qui ne chanterait plus. Et là, à partir du confinement, on a alors une autre rupture, c'est-à-dire vraiment un mouvement très fort qui émerge de la société chinoise, une espèce de critique dans la nouvelle génération de classe moyenne vis-à-vis des normes et des valeurs qui se sont développées précisément lors du grand mouvement, le grand miracle, le miracle chinois. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes aujourd'hui disent « Écoutez, nous, on n'y arrive plus avec cette vie de compétition, avec cette vie de consommation acharnée, il faut travailler le dimanche, il faut travailler le samedi. » Il faut dire qu'il y a dans la plupart des entreprises chinoises, y compris des entreprises de high-tech et des services, vraiment un système despotique, on pourrait dire, d'organisation. C'est-à-dire le patron est roi, il faut montrer qu'on travaille, qu'on s'implique dans le travail, dans l'entreprise, etc., etc. Donc on sacrifie tout d'une certaine façon pour le patron, on sacrifie tout aussi pour l'enfant puisqu'on va lui payer ses études. L'enfant lui-même se sacrifie puisqu'il va dès l'âge de 2 ans rentrer dans une compétition pour accéder aux meilleures universités. Donc ça commence extrêmement tôt. Il faut aller dans les écoles primaires de qualité, puis dans les écoles secondaires, etc. Donc cette société qui est apparue, disons, dans les années 2000, 2010, 2015, est une société de compétition, de consommation, de paraître, etc. et de très 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 fortes tensions. Et il y a effectivement à partir des années 2018-2019 tout un mouvement avec différents noms qui ont un rôle très très important sur Internet notamment, de gens qui disent non, nous on n'en peut plus, non seulement on n'en peut plus mais on ne peut plus d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'avec justement les problèmes d'emploi, avec les problèmes économiques, on n'arrive plus finalement à continuer à monter dans la hiérarchie, améliorer notre situation, et il y a un phénomène d'involution et non pas d'évolution, c'est-à-dire on tourne en rond ou on va en arrière. Et donc, puisqu'on n'y arrive pas, à quoi bon continuer à se battre? Et donc, il vaut mieux, dans ce cas-là, lâcher un certain nombre de choses, avoir une autre façon de concevoir le travail et la vie, et faire une différence nette entre le travail, par exemple, et la vie familiale ou la vie personnelle, plutôt de continuer cette, finalement, course qui n'a plus aucun sens.
Alors justement, Jean-Louis Roca, sur cette perte de sens ressentie par un grand nombre de jeunes personnes, de jeunes gens, je voudrais vous faire écouter des témoignages justement de ces jeunes personnes, qu'elles soient récemment diplômées ou non, des témoignages qui ont été récoltés dans un reportage mené en août 2022.
Je ne peux pas dire si je suis satisfait ou non. Le travail est banal et ennuyeux. Je me débrouille, c'est tout. C'est ennuyeux de faire les mêmes choses tous les jours. C'est répétitif. C'est la même chose du lundi au samedi. Le travail de cette semaine est le même que celui de la semaine prochaine. Je travaille du lundi au samedi, j'arrive au travail à 9h et je termine à 5h. Ensuite, je rentre à la maison, je mange et je dors. Je me distrais sur mon téléphone. Le week-end, je joue au basket. Je vais boire un verre avec des amis. Rien de particulier.
Ce n'est pas que je n'ai pas envie de gagner de l'argent, mais je n'ai pas la motivation nécessaire pour le faire. Nous faisons simplement ce que nous pouvons en fonction de nos capacités.
Selon nous, notre persévérance ne nous a pas permis d'atteindre nos rêves. C'est pour ça qu'on abandonne. La vie actuelle que nous avons n'est pas mauvaise, donc cela n'a pas d'importance.
David Bavre, on entendait là un certain nombre de témoignages qui finalement incarnent ce que nous disait à l'instant Jean-Louis Roca sur cet abandon aussi vis-à-vis du marché du travail, ce sentiment d'insatisfaction. Peut-être qu'on peut mettre en parallèle ce changement générationnel avec un autre changement de fond, c'est celui de la démographie chinoise qui est confrontée à une chute de son taux de natalité. En 2024, seuls 6 millions de naissances ont été comptabilisées alors que l'objectif gouvernemental est de 20 millions. David Bavre, est-ce qu'on peut effectivement dire qu'il y a un vrai changement de génération qui se joue en ce moment en Chine. Alors on pourrait se dire qu'il y a autant de consommateurs potentiels futurs en moins, mais ça traduit aussi effectivement un horizon d'attente qui a été considérablement réduit pour ces nouvelles générations.
Alors malheureusement, je suis totalement incompétent sur cette question, parce que moi je suis un boomer et vous me demandez de parler des Gen Z. Alors, déjà en France, je ne les comprends pas, mais alors me demander d'essayer de les comprendre en Chine, il n'y a vraiment aucune chance. Il y a trois choses qui me frappent. Premièrement, on va avoir une société qui n'est faite que d'enfants uniques. Ça n'est jamais arrivé, je n'ai pas de précédent. L'enfant unique, juste qu'on rappelle aux auditeurs, ça a commencé en 1990. Donc une femme se mariait à 28 ans et un enfant à 30 ans en général. Donc vous voyez, ça nous mène à 2020. Donc 2020 et le Covid 2022. Donc ça fait que 2 ans qu'on commence à comprendre le comportement de cette génération d'enfants uniques et qui ne fait plus d'enfants. Donc on n'a jamais vu ça. Ne me demandez pas de vous dire ce que vont faire ces gens. Deuxièmement, vous l'avez souligné précédemment, ces Gen Z étaient extrêmement nationalistes avant le Covid, où Xi Jinping leur a mis dans la tête que la Chine était en train de gagner. Et ils ont été très déçus par le traitement du Covid de leur gouvernement, ce qui fait qu'ils sont dans ce qu'on appelle un mouvement « allonge-toi sur le canapé », un mouvement non pas de révolte face à des insatisfactions, mais plus d'abandon. Et donc, en contradiction total avec la génération précédente. Donc ça, également, comment ça va tourner, je ne peux pas vous le dire. Et puis, la troisième chose, c'est que il y a un véritable problème environnemental qui est beaucoup plus fort que chez nous, puisque les émissions de CO2 sont 30% des émissions de CO2 mondiales, mais alors que je ne consomme que 5 000 $ par an, alors que l'Américain, il consomme 50 000. Donc ils consomment 10 fois plus que moi, mais c'est moi qui ai 30% des CO2 mondiaux. Et donc il y a, je pense, une prise de conscience environnementale et en matière de consommation et de marque environnementale. Ce qui est frappant, c'est que nous, en Occident, nous n'avons développé aucune grande marque environnementale. Elles sont restées des marques niches, que ce soit North Face, que ce soit Patagonia. Et je pense que si nous allons être... un des domaines où nous allons potentiellement être surpris, ça va être la constitution de marques environnementales chinoises qui, par leur taille domestique, ambitionneront d'être globales et de débarquer chez nous. Donc, moi, j'admire, j'aimerais vraiment avoir votre job, parce que c'est le job le plus fabuleux du monde, d'essayer de comprendre comment ces Gen Z vont consommer, parce que moi, je suis totalement incompétent.
Jean-Louis Roca, est-ce qu'on peut effectivement envisager un changement dans la structure de consommation qui serait davantage tournée vers des préoccupations environnementales? Et je vous pose la question aussi de façon plus large, notamment parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais finalement, là où le contrat s'est formalisé autour de la notion de prospérité, avec cet horizon-là de l'enrichissement offert aux classes moyennes, est-ce qu'aujourd'hui, le nouvel horizon, le nouveau contrat n'est pas autour davantage de la notion de bien-être? Je vous pose la question, notamment parce que dans le programme qui a été dévoilé aujourd'hui, il y avait notamment la promesse de construction de places en crèche, notamment la promesse aussi que les congés payés soient étendus, la possibilité de prendre davantage de vacances. Est-ce que voilà, finalement, ce n'est pas le bien-être qui va constituer l'impératif et en tout cas l'horizon d'attente de ces jeunes potentiels consommateurs?
Le mouvement le plus important, que l'on appelle effectivement le mouvement Taoping, donc que moi je traduis par restons couchés, hein, est basé sur en fait on pourrait dire sur un aquabonisme, à quoi bon, hein, c'est-à-dire à quoi bon continuer à travailler comme un fou si finalement on en profite de rien, à quoi bon avoir des responsabilités, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, si c'est d'abord pour se marier il faut acheter un appartement, déjà on rentre dans une logique qui est pas obligatoirement une logique très agréable, et l'enfant il va vivre la même vie d'enfant que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que l'enfant, eh bien, il va passer son temps à travailler comme un fou, etc. Donc il y a vraiment ce constat, à quoi bon continuer dans le comportement que pouvaient avoir les parents et les grands-parents, qui se comprend tout à fait, puisque les grands-parents, eux, venaient d'une société qui était une société, au contraire, de pauvreté, hein, et qui ont connu effectivement une prospérité tout à fait importante. Et donc, c'est une remise en cause un petit peu globale, on pourrait dire, et qui induit un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on ne connaît pas, ou très peu de cas, de gens qui s'arrêtent de travailler, qui deviennent clochards, ou qui partent sur une île déserte, ou etc. Mais c'est plutôt un état d'esprit en disant on va travailler juste ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Bien évidemment, mes parents parents, eux, ils ont accumulé, donc ils peuvent continuer à m'aider. Mais il faut remarquer que parmi les jeunes migrants aussi, il y a ce mouvement-là, c'est-à-dire un mouvement vraiment de décalage par rapport effectivement aux normes et valeurs précédentes et qui peut évidemment avoir des conséquences, et c'est l'inquiétude des autorités, dramatique sur le niveau de consommation en Chine.
Et donc nous allons voir, comme l'appelait de ses voeux David Bavret, voir comment tout ça va se transformer en termes de comportement de consommation, mais en tout cas on a bien compris les défis auxquels étaient confrontés notamment le gouvernement chinois aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, David Bavret et Jean-Louis Roca, d'avoir participé à cette émission.
Merci.